exemple, il y a des images stock qui ne sont pas canadiennes. Vous avez vu des scandales, des petits scandales, mais par exemple, une publicité des conservateurs avec des avions de chasse.
Ça, oui.
C'était finalement des avions russes. Des beaux champs de blé. Finalement, c'était des champs ukrainiens.
Plus proche d'ici, on avait eu Sam Ahmad qui avait mis une photo pour souligner la fin de semaine de la fête du travail, de mémoire, quelque chose du genre. Là. Puis c'était un lac en Ontario, ce qui est des gros chalets. Là.
Donc, si on reproche aux politiciens de ne pas être foutus, excusez-moi, d'utiliser des images d'ici, d'utiliser des acteurs d'ici, des artisans d'ici, est-ce qu'on va trouver que c'est plus éthique d'utiliser... Puis on s'entend que l'intelligence artificielle, là, c'est pas tout à fait localement produit, là, au cas où vous le sachiez pas. Là. Donc, je pense que ça pose des questions, mais à mon humble avis, ça va s'imposer peu importe qu'est-ce qu'on dit. Puis il y a certains chercheurs qui disent que ça pourrait même contribuer à baisser la confiance parce que on va se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai à travers ça. Moi, je pense qu'une ligne qui est à ne pas traverser, bien, premièrement, il faut que ce soit bien indiqué, et c'est le cas dans la publicité des conservateurs qu'on a vue le 5 juin. Mais je pense qu'une ligne à ne pas traverser, c'est de produire des contenus, par exemple, avec ton adversaire politique fait par intelligence artificielle, te faire dire des choses ou te faire faire des choses que tu n'as pas dit.
Est-ce que ça devient du deepfake à ce moment-là?
Exactement.
Même d'utiliser l'intelligence artificielle, tu sais, c'est ça. La question, c'est pas, est-ce le bon terme? Mais moi, je le verrais comme ça. T'sais, ça devient du deepfake pour moi, puis du fake news, d'utiliser...
Pour moi, la ligne est là.
Ben oui.
Puis c'est sûr que c'est pas très encadré. Le gouvernement fédéral a déposé le 10 juin le Safe Social Media Act qui obligerait les plateformes de médias sociaux à étiqueter. Donc, c'est généré synthétiquement, artificiellement, quand c'est partagé sur les plateformes. Mais honnêtement, on perd un peu le contrôle. Moi, j'ai des collègues chroniqueurs qui, par exemple, vont écrire une chronique. Ils vont demander à l'intelligence artificielle de produire une image pour illustrer leur chronique, mais ça va mettre en scène, un peu en dessin animé, tu sais, c'est pas des deepfakes, là. Mais ça va mettre en scène des politiciens qui sont dans leur chronique. Mais je pourrais décider de dire, politique fiction, imaginez qu'Éric Duhaime devient premier ministre, puis là, je fais produire une image d'Éric Duhaime au Honoré Mercier, là, comme premier ministre avec l'intelligence artificielle. Moi, là, j'aime vraiment pas ça. Est-ce que j'ai la permission d'Éric Duhaime? C'est sûr que lui aimerait ça, là, en premier ministre, mais mettons, là, c'est une affaire positive. Là. Mais est-ce que vous avez envie de vous faire mettre en scène dans des photos? Moi, là, vraiment, vraiment pas. Donc, je pense qu'en politique, ils ont le devoir de donner l'exemple. Je pense que ça va se multiplier. Il faut que ce soit affiché. Il faut pas que ce soit pour mettre l'adversaire mal à l'aise ou dans des scènes ou dans des actions qu'ils n'ont pas faites ou dit.
Oui, qu'il faudrait qu'ils se mettent en place eux-mêmes un code d'éthique, sans attendre que des institutions le fassent à leur place. Tu sais, au moins, la pub du Parti conservateur, c'est écrit, c'est très clair. Moi non plus, j'aime pas ça. Ça va être mon choix, moi, de... Peu importe le parti qui va le faire, là, je le sais que je vais trouver ça urk. Mais tant qu'ils le disent, tant qu'ils le font, déjà, ça fonctionne bien. Mais t'as raison, t'sais, il y a des zones qui sont grises au moment où on se parle, qu'il faudrait clarifier. Puis je pense que si on attend que ce soit un gouvernement qui bouge, il va être trop tard. On est en retard sur tout le temps.
Le gouvernement est tout le temps 3 kilomètres en arrière. Je suis absolument d'accord avec ça. Donc, on s'attend à ce que les partis politiques se mettent certaines balises. Puis aussi, je doute de l'efficacité tant que ça.
Tu sais, l'enjeu qu'il y a par rapport à ça aussi, c'est que ce qui me déplaît pas dans des campagnes électorales, c'est que ça permet aux différents partis politiques des différents paliers, là, mais d'injecter de l'argent, justement, dans différents métiers, dans différents médias, ben oui, en plein ça, qui vont permettre de... Tu sais, l'impression des pancartes va se faire localement. Il y a, c'est ça, tu sais, la recherche, travailler avec une agence de pub ou de marketing pour les slogans, les pubs qui vont jouer à la radio, qui vont jouer à la télé, il faut les produire, ces pubs-là. Fait qu'au moins, il y a de l'argent qui est injecté dans l'économie.
Puis vous avez vu la pub du PQ pendant les playoffs?
Le sandwich.
Avec le sandwich.
Le sandwich, la CAQ.
Tu sais, il y a une agence de pub qui a travaillé là-dessus, puis il y a deux, trois acteurs dans cette pub-là, donc ça fait aussi rouler effectivement l'économie. Puis vous vous rappelez aussi du scandale qu'il y avait au Festival d'été, il y avait des affiches qui étaient produites par intelligence artificielle, puis ça avait mené à un débat aussi. Dans un festival qui veut mettre de l'avant des artistes de la culture, est-ce qu'on ne devrait pas encourager d'autres artistes
là,
pour les autres contenus?
S'ils décident de le faire, moi, s'ils l'indiquent. T'sais, comme là, ça avait été appris un peu on the side, indiquez-les, soyez transparents, on va prendre nos décisions par rapport à nos perceptions, parce qu'on en a déjà parlé en ondes, qu'un petit studio de production de jeux vidéo puisse se servir de l'intelligence artificielle pour être capable de rivaliser avec les grands, puis garder une couple de jobs à Québec. T'sais, je vis bien avec, fait qu'il va falloir qu'on module tout ça, mais ça va être intéressant de voir effectivement avec la campagne électorale ce que ça va donner.
Puis c'est partout non, autour oui. de nous. T'sais, on fait quand même pas mal de plein air puis de camping avec la petite famille, puis l'été passé, à deux reprises, on est allé dans des parcs de la CEPAC, puis il y a de magnifiques images maintenant, des dessins qui sont vraiment super beaux pour représenter les différents parcs. Tellement beaux qu'on les a encadrés, puis c'est la décoration dans notre cuisine, nous.
Ah ouais.
Chez nous, en ce moment, sont vraiment, vraiment belles, les images. Puis à un moment donné, en achetant la deuxième, j'ai comme mis le pied sur le frein un peu, puis j'ai dit à ma blonde, hey, on est-tu sûr que c'est pas l'IA, ça?
Y a-tu un artiste qui a
Parce que ça serait vraiment pas... Et je lis son nom, finalement. Elle s'appelle Marie-Pierre Primo. C'est elle qui est derrière ces images-là, mais on a fouillé sur Internet pour trouver et s'assurer que la CEPAC avait vraiment engagé un ou une artiste pour faire vraiment des visuels, faire ces belles images-là. Parce que maintenant, je regardais les images puis je disais à ma blonde, après ça, c'est tout le même format. Fait que c'est facile pour l'IA, une fois que tu as trouvé un gabarit, de juste dire, OK, mais répète-moi la même affaire pour le parc de la Jacques-Cartier, puis la même affaire pour le BIC maintenant. Puis... Fait qu'il faut se questionner sur la place que va prendre l'intelligence artificielle, surtout dans des campagnes comme ça. Tout ce qui est création, créativité... C'est le fun d'avoir des agences bien de chez nous, puis des imprimeurs, puis des jeunes médias qui vont travailler là-dessus.
On a reçu un texto, puis je dois dire que c'est vrai. Tu sais, des fois, on dépense aussi beaucoup d'argent public dans des campagnes de publicité. Tu sais, là, on parlait d'équilibre. Si des fois, on est capable d'économiser un petit peu d'argent aux contribuables, puis d'être plus efficace. Mais moi, je sais que juste produire comme avec des faux acteurs de l'IA, moi, personnellement, ça ne m'accroche pas. T'sais, est-ce qu'on peut se servir de l'intelligence artificielle pour faire certains effets spéciaux? Oui, mais tout est dans l'équilibre, à mon
avis. Tout est dans l'équilibre. Encore là, c'est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Puis, tu sais, ça serait plate de faire un pas en avant trop grand dans cette situation-là, avec cette matière-là, pour finalement être obligé de prendre un pas de recul puis de regretter. Moi, c'est ça qui me fait peur avec l'IA. C'est qu'à un moment donné, on soit trop loin puis qu'on regarde le big picture, puis qu'on se dise « Oh, palais, on aurait dû mettre les freins avant ça. » Puis que là, on aille du
en
regret.
Tout cas, Terminator nous l'avait dit dans les années 90, mais on n'écoute pas.
C'est ça, on n'écoute pas. Will Smith nous l'a répété dans iRobot aussi, puis on n'écoute pas encore, effectivement. Dans la circulation, c'est toujours aussi difficile, Véro?
Oui, puis sur le texto, on nous mentionne sur le boulevard Amel, coin rue des Braves, dans le secteur de l'ancienne Lorette, il y a un accident impliquant deux véhicules, pompiers, police et ambulances qui sont sur place. Le trafic est très lourd dans le secteur. Je vous rappelle aussi qu'il y a un problème de circulation dans le coin de Beauport. La circulation automobile qui est présentement fermée sur l'avenue des Sablonnières entre la rue Louis-Philippe Roy et le boulevard Raymond. C'est un accident impliquant une automobiliste de 76 ans qui a d'ailleurs été arrêtée pour délit de fuite et un jeune cycliste d'ailleurs, lui, on craint actuellement pour sa vie au moment où on se parle. On avait aussi des problèmes à d'autres endroits sur la carte. Laisse-moi voir l'accident sur la 40. Il y en a un qui est en direction est, un qui est en direction ouest, puis on est vraiment à la hauteur de Chemin du Lac. Très ralenti dans ce coin-là. Je sais qu'il y avait une roulotte qui avait été renversée tantôt.
Ouais,
là,
c'est ce qu'on nous avait dit par texto.
Qui est problématique. Capitale en direction est, entre le secteur du boulevard Masson jusqu'à la hauteur du boulevard Pierre-Bertrand. Très, très long aussi. On a un problème sur Laurentienne. C'est en direction nord, à l'approche justement de Capitale. Puis sur la rive sud, y a quelqu'un tantôt qui nous a suggéré de dire que sur la 20, c'est compliqué dans le coin des travaux pour les 4 prochaines années.
Tu peux l'enregistrer puis le passer en boucle, mettons?
Okay. Ça
devrait être une pub qui roule sur l'antenne. Vous êtes sur la 20?
C'est bloqué.
C'est difficile. Ça va être difficile. J'aime beaucoup l'optimisme et la joie de vivre de nos auditeurs par texto. C'est rentré. De toute façon, un jour viendra et le soleil ne brillera plus.
OK. Là, tu vas recommencer à boire, je pense.
Regarde, gros lundi, je m'en vais me chercher un petit vino, j'en reviens. Le retour. 17h13 minutes. On est en train de se dire à quel point cette émission-là passe à vitesse grand V, à micro fermé, justement. À quel point ça va excessivement rapidement pour un lundi. Mais on est là pour...
Demain, on est déjà vendredi.
Là. Oui, c'est ça. Demain, on est déjà vendredi, puis après ça, on recommence. Lundi, vendredi, ça serait des belles semaines. Ça serait vraiment le fun. Ça serait tellement plus simple. Puis, c'est une grosse journée quand même du côté de la Ligue nationale aujourd'hui aussi. Et on a demandé à l'ami Max Larouche de bien vouloir se joindre à nous pour qu'on puisse lui poser différentes questions sur tout ce qui se passe, évidemment, surtout du côté du Canadien. C'est ça qui nous intéresse. Salut, Max.
Salut.
Yes, ça marche, il est là. Hey,
contrairement de la technologie, hein?
Ah, non, mais c'est parce qu'on n'utilise pas ça, nous autres, Zoom, du côté de Weekend.
Hein?
Fait que...
Bienvenue à Boulevard.
Je suis content que ça fonctionne, tout marche comme il faut. Max, grosse journée du côté de la Ligue nationale. Puis évidemment, ben, c'est sûr que ce qui retenait l'attention, c'était Gallagher. On avait hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer avec lui. Mais avant ça, il faut comprendre que là, le Canadien a jusqu'à 16 ans pour soumettre des offres qualificatives à certains joueurs. Et là, on sait déjà qu'il y en a de ces joueurs-là qui vont recevoir des offres.
Ils
en...
les ont reçus parce qu'il est passé 16 ans.
Non? Oui, t'as bien raison qu'il est passé 16 ans. T'as bien raison. C'est
ça
déjà
fait une heure
de...
et quart, c'est
ça fini. Fait une heure et quart qu'ils pensent à ça. Mais ces offres-là, les joueurs ne sont pas obligés de les accepter, par contre. Il y a plusieurs choses à comprendre là, dans cet ouais. aspect-là. Là.
Le concept des offres qualificatives, puis là, suivez-moi, là, je vais essayer de faire ça simple. Dans la vie, t'as les agents libres avec restriction et les agents libres sans restriction. Puis en gros, là, tu sais, il y a des critères bien compliqués. Prenez pour acquis que c'est un genre de... Puis là, je le fais vraiment très approximatif, juste pour que tout le monde ait une bonne idée. Mettons qu'en bas de 25 ans, souvent, tu es avec restriction, puis après ça, tu tombes agent libre, puis il n'y a pas d'histoire de restriction. C'est quoi les restrictions? C'est que là, le Canadien, pour bien des joueurs, puis j'en aime une coupe, Arbor Jacky, Zachary Bolduc, Kirby Dach, avait la chance de dire... « Hey, toi, si tu veux aller signer avec une autre équipe, ben tu peux le faire, mais cette équipe-là va me compenser avec un choix au repêchage. » Et c'est là où tu déposes ton offre qualificative, c'est si tu veux garder les droits sur le joueur. Fait que là, le Canadien a fait ça officiellement à 16h avec les gars que je vous ai nommés, des Bolduc, des Dach, des Jacky. C'est pas des surprises, quoique Dach, on pensait peut-être qu'il allait devoir quitter. Parce que un des aspects, c'est que l'offre qualificative que tu fais, le joueur peut aussi dire « Hey, moi, je l'accepte, ton offre qualificative. » Il n'est pas obligé, vous pouvez négocier après, mais il peut dire « Je l'accepte, ton offre qualificative. » Puis dans le cas de Dach, c'est un 4 millions par année. Puis ça, c'est basé sur ton ancien contrat. Mm-hmm. Dach, c'est 4 millions par année. C'est un pensée bien dans son cas de dire « Tu veux-tu vraiment donner un 4 millions sur la masse salariale à Kirby Dach avec son jeu que tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre? » Il y en a beaucoup qui pensaient, puis il y en a qui souhaitaient que le Canadien allait le laisser partir. Finalement, vraisemblablement, Kent Hughes n'est pas prêt à lancer la serviette, donc tout indique. Puis là, tu sais, officiellement, l'offre qualificative a été faite. Donc, Dach reste une propriété du Canadien, puis tout indique que le Canadien va lui soumettre une offre de contrat. Est-ce que Dach pourrait aussi l'accepter, son offre qualificative à 4 millions? Moi, je pense que ça va être ça qu'il va faire. Mais il pourrait aussi s'entendre avec le Canadien pour plusieurs saisons, ce qui me surprendrait.
Est-ce que du côté de Zachary Bolduc, parce que moi, j'ai pas suivi ça du tout, puis là, tu as dit qu'il avait reçu une offre qualificative. T'sais, c'est sûr qu'un Québécois dans l'équipe du Canadien...
Qui a bien fait en série aussi.
Qui a bien fait en début de saison. Ça a été un petit peu au ralenti par la suite. Il a quand même bien fait en série. C'est sûr que Bolduc a trouvé le fond du filet en début de saison. Je pense que les gens s'attendaient à ce que ça soit ça tout au courant de la saison au grand complet, puis même des séries, alors qu'il a quand même bien fait. Est-ce que tu en sais un peu plus sur cette offre-là? Est-ce qu'on est safe? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il va refuser? Est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il s'en va?
Ben, en fait, Zachary Bolduc va rester. Puis, tu sais, lui, son offre qualificative, c'est pas intéressant pour lui de l'accepter parce qu'elle est trop basse. Okay. C'est là où on est dans le trait technique. Tu sais, Dach à 4 millions, lui, probablement qu'il va l'accepter parce que c'est plus haut que sa valeur actuelle. Mais le Canadien a décidé de prendre le guess pareil. Alors qu'avec Bolduc, lui, ce qui est intéressant, c'est que tu t'assures de garder ses services. Je pense pas qu'une équipe, là, on pourrait rentrer dans les offres hostiles et tout ça. Là. Mais dans le cas de Bolduc, ce que ça fait, c'est que tu donnes une certaine période de temps pour négocier avec lui son prochain contrat. Moi, je m'attends à un genre de 3 ans, 3,5 millions par année, là, avec les contrats de fou qui se donnent dans les dernières semaines, avec la hausse du plafond salarial. Ça pourrait peut-être aller dépasser le 4 millions. Là, je trouverais qu'on ambitionne un petit peu. Mais tu sais, un genre de 3-4 ans à Zach Bolduc pour 3,5-4 millions, moi, d'après moi, on s'en va dans ces eaux-là.
Est-ce que ça ferait bien, même si ça serait à 3,25, c'est-à-dire le montant qu'on va être capable de retenir du salaire annuel de Gallagher qu'on n'aura pas payé pendant un an, étant donné l'échange
Nathan
qui a été fait?
Actuel.
Hein? Regarde, écoute, un moment donné... 2 moins 1 font 1, parce que là, c'est confirmé pour Gallagher qui est échangé du côté de Vancouver. Il y a un petit pincement au cœur, on en parlait plus tôt dans l'émission, de voir ce gars-là partir après les 14 belles saisons qu'il nous a données à Montréal. C'est un vrai de vrai guerrier, mais en même temps, au moins, il rentre à la maison.
Ouais.
Là.
Ouais, puis tu sais, moi, on dirait que mon. Puis j'en parlais avec des chums un matin qui disaient, aïe, j'ai un pincement au cœur. Puis moi, mon deuil était déjà fait, là. Puis tu sais, Gallagher, c'était mon idole de jeunesse. Moi, quand je jouais au hockey, j'avais pas ben de talent. Ce que j'avais, c'était de pouvoir travailler fort. Fait que je me basais sur Brendan Gallagher. Puis tu sais, c'est le genre de joueur que tu voulais être quand tu jouais au hockey, Brendan Gallagher, puis t'avais pas énormément de talent. Fait que. Mais moi, mon deuil, je veux dire, était déjà fait à partir du moment où on a vidé les casiers, que Gallagher s'est vidé le cœur en disant que c'était fini à Montréal. Moi, de voir l'échange aujourd'hui, ça a comme été, puis c'est très froid comme réaction, mais bon, parfait, dossier business, c'est clos. Tu sais,
ouais, Gallagher ça, est parti. Soupir de soulagement.
Exact. Puis surtout que moi, je m'attendais à ce que le Canadien doive retenir du salaire, ce qu'il a fait. On retient 50% de son salaire pour la prochaine année. Puis je pensais qu'en plus de ça, le Canadien allait devoir payer un choix de repêchage pour s'en départir. Je m'attendais à ce que le CH doive retenir 50% puis, mettons, donner un choix de troisième ronde. Fait que moi, quand j'ai vu que, oui, on retenait 50% de son salaire, on l'envoie à Vancouver, mais on donne rien en plus. Regarde, lui est content, on lui fait une fleur. Vancouver, ben, c'est cool pour eux autres d'avoir un bon leader comme ça dans leur chambre. Ça fera vraiment pas de tort. Le Canadien a de l'argent de plus à dépenser sur des joueurs qui peuvent aider l'équipe dès cette année. Fait que, tu sais, pour vrai, ce mouvement-là, c'est un win-win-win pour les deux équipes, pour le joueur. Tout le monde est content.
Est-ce que Gallagher est le genre de gars qui a joué assez longtemps à Montréal pour qu'à la fin de sa carrière, quand il va décider de prendre sa retraite, le CH fasse signer un contrat d'une journée?
Oui, c'est de même que ça va finir. J'avais peur que tu t'en ailles vers proposer de retirer son chandail. J'avais vraiment peur que tu ailles
là. Je suis pas innocent à temps plein.
Non, mais il y en a qui vont le proposer, puis c'est correct. Là, je veux dire, avec le cœur, je veux dire, Gallagher a tellement donné pour cette organisation-là. Je sais pas, les Canucks de Vancouver vont venir jouer quand à Montréal, mais ce match-là, vous voulez être là. Là.
Oui.
Vous voulez voir l'accueil que va recevoir Brendan Gallagher à son retour à Montréal. Mais oui, clairement, quand Gallagher prend sa retraite, ça va se faire en signant un contrat d'un jour, disons, honorifique là, avec le Canadien, c'est sûr, sûr, sûr.
Il y a deux choses dans la prochaine nouvelle. Il y en a une qui est épouvantable, puis il y en a une qui est quand même bonne, je pense. La bonne nouvelle, c'est pour le joueur, Joshua Roy, qui est échangé en Utah. La mauvaise, c'est que tu as une chance une fois dans ta vie de choisir le nom de ton équipe. Puis tu prends le mammouth.
T'aimes pas ça, toi?
C'est épouvantable.
T'as-tu vu leur Zamboni? Elle est full cool.
C'était bien meilleur quand c'était juste Utah écrit sur leur gilet. C'était bien mieux ça, mais ça n'empêche pas le fait que pour Joshua Roy, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense que c'est une équipe où il va avoir un beau terrain de jeu pour se développer.
Ouais, puis tu sais, Joshua, ça avait bien commencé son parcours professionnel. Puis tu sais, je vais redire ce que j'ai dit à matin. Reste qu'un choix de cinquième ronde, sans rien enlever à aucun choix de cinquième ronde. Puis dans la LNH, c'est un exploit. Moi, je serais jamais repêché en cinquième ronde dans la LNH. Là. Mais de façon statistique, un choix de cinquième ronde fera jamais rien de bon dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il y a quelques exceptions, mais reste que c'est ça, c'est des exceptions. Ce que fait déjà Joshua Roy dans le hockey professionnel, les bonnes performances qu'il y a dans la Ligue américaine de hockey, c'est déjà bon pour un choix de cinquième ronde. Il y a bien des joueurs de son année de repêchage 2021, premièrement, qui jouent probablement même plus au hockey, puis il y en a un méchant paquet qui joueront jamais un match dans la Ligue nationale de hockey. Joshua Roy, on a déjà 38 des matchs derrière la cravate, dont 23 à sa première saison. C'était bien parti. Le développement, pour différentes raisons, a moins bien été par la suite, malgré le fait que ça ait bien été pour ce qui est de la production dans la Ligue américaine. Puis là, quand tu regardais les pièces du casse-tête à Montréal, il n'y en avait pas de place pour un Joshua Roy. C'est un gars, pour être utile dans une équipe, il faut qu'il joue dans un rôle offensif. Mm-hmm. Ce rôle-là, on le voyait plus à Montréal. Tu vas chercher un défenseur que je connais pas, là, Maximilian Zuber, un gars qui est né en Pologne.
En Pologne. C'est quoi? Pologne. C'est la Pologne et la Hollande qui ont fait
Pologne.
Un enfant?
C'est entre les deux. C'est s'il est né
ça
sur la ligne.
Ah, c'est ça, ouais.
Il est né en Pologne.
Je suis en train de lire
c'est
en
la
anglais.
Pologne ou la Hollande, c'est comme tu veux. C'est un...
Il est né en Pologne. A grandi en Allemagne. Fait que, en fait, c'est un Allemand dans les faits. Là.
Okay.
Un gros bonhomme défenseur de 6 pieds 3, 23 ans. C'est-tu un gars qui va jouer un jour dans la Ligue nationale? Je le sais pas. Pour l'instant, ce qui monte dans la Ligue américaine, ça semble être encourageant. Fait qu'à suivre. Mais dans tous les cas, on échange un gars qui avait plus de place à Montréal et qui va pouvoir peut-être se développer ailleurs en Joshua Roy. contre un autre gars qui pourrait peut-être se développer à Montréal. Dans tous les cas, ben, c'est des peut-être puis de la Pollande.
Les Panthers qui ont transigé aussi. Eux autres, ça a bougé aussi aujourd'hui. Puis tu nous écrivais qu'ils risquent de devenir encore plus haïssables. Ça se peut, ça?
Ben, ça, c'est fascinant. Je veux dire, les Panthers de la Floride, à la base, tu sais, avec les Sam Bennett, les Matthew Tkachuk, puis Brad Marchand, mm-hmm. c'était déjà une équipe terriblement haïssable. Là, ils ont fait l'acquisition de l'autre tête de pub, Brady Tkachuk, ouais, dans les dernières semaines. Ouais. Là, déjà là, tu dis, OK, cette équipe-là peut pas devenir encore plus haïssable. Ben là, ils ont tradé pour les droits de Ratko Gudas, qui est un méchant salaud, un gars de 36 ans, un joueur, tu sais, lui, tu le veux dans ton équipe. Là, c'est un défenseur qui est très robuste, qui frappe pour faire mal. Si ce gars-là doit s'entendre avec les Panthers, ça va être quelque chose. Il faut dire que lui vient de passer 3 ans à Anaheim, mais avant ça, avait joué 3 ans en Floride avec les Panthers aussi.
Tu sais qu'avec un nom de même, t'aurais pu dire 3 ans en tôle, puis je t'aurais cru aussi.
Ah, puis va checker les photos de Ratko Gudas, puis il y a le profil, en effet. Là. Mais non, là, c'est ça. Là, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi c'est un peut-être, c'est que c'est ses droits qui ont été échangés, parce que lui, il peut devenir agent libre le 1er juillet puis signer où il veut. Fait que ce que font les Panthers, c'est se donner la possibilité de jaser avec 2 jours de plus que les autres formations, puis d'après moi, on va être en mesure de s'entendre avec Ratko Gudas. Puis
c'est vrai que la ligne que les Panthers vont y dire, c'est « veux-tu être un autre méchant dans une équipe de méchants dans notre film de hockey?
Okay. »
Ah, ben ça, puis tu paieras pas de taxes, puis tu vas vivre au soleil. Là. Ouais. Ça, c'est l'autre ligne des Panthers. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un échange weird, parce que c'est les droits de Gudas contre les droits de A.J. Greer, qui est un Québécois. Plusieurs voyaient signé à Montréal, un gros bonhomme de 4e trio. Là, est-ce qu'il va vraiment se rendre lui aussi sur le marché le 1er juillet à suivre? D'après moi, il va être capable de s'entendre aussi avec les Ducks. Fait que tout le monde va être content, sauf les partisans du Canadien qui le voulaient à Montréal.
Le début du camp de développement du Canadien de Montréal qui débute déjà demain.
Ouais, puis ça, c'est pas grand-chose. C'est un petit camp, ça se passe du 30 juin, donc demain au 2 juillet. C'est entre autres les gars qu'on a repêchés en fin de semaine. C'est des joueurs invités, des petits Québécois des fois qu'on invite pour le fun. En tout, c'est 37 joueurs qui sont là. Pour vrai, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Là. C'est vraiment pour apprendre à reconnaître les joueurs. On prend les mesures, les tests physiques. On ne sait pas si Gleb Pougachiov, le choix de première ronde de vendredi, va être en mesure d'être là parce que des questions de visa et tout ça. Pour ceux que ça intéresse, là, il va y avoir aussi des petites entrevues avec les différents joueurs. Fait qu'on pourra en reparler s'il se passe de quoi d'intéressant. Mais c'est ça. C'est juste une occasion pour l'organisation et les joueurs d'apprendre à se connaître comme du petit speed dating.
C'est pas mal un dernier meet and greet aussi, à part les tournois de golf peut-être avant la saison estivale, pour voir les différents membres de l'équipe ensemble, justement. Donc, un bon point de chute pour les journalistes justement.
Qui
peuvent patiner, ouais, c'est ça, en plein ça. Puis là, c'est la même chose aussi, camp de développement qui débute du côté des Oilers d'Edmonton, mais tu nous as écrit qu'il y a des femmes qui ont été invitées à leur camp.
Oui, parce que, tu sais, à Montréal, on invite l'entraîneur-chef de la Victoire de Montréal à venir coacher. Même affaire pour Caroline Ouellette, qui vient coacher au camp d'entraînement, au camp de développement, pardon. Mais les Oilers d'Edmonton, eux, ont vraiment invité des joueuses à participer à leur camp. Il y a A.B. Murphy, qui est déjà un visage bien connu de la PWHL, et tu as Chloé Primanero et Caitlin Kramer, qui sont projetées comme deux futures stars chez les femmes dans le hockey. Fait que les inviter comme joueuses, j'ai trouvé ça sympathique.
C'est une bonne idée, je trouve.
Là, il y a des langues qui disent que Mike Babcock a hâte de leur demander leur photo dans leur téléphone cellulaire. c'est une blague d'actualité hockey. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que les Oilers se sont tellement fait une mauvaise réputation dans les dernières années en allant chercher un directeur général qui était suspendu, qui ont dû passer par une enquête pour le réembaucher, viennent de faire la même affaire avec un coach.
Tu penses que c'est comme, une job d'image publique?
Hey, on va tout effacer ça. On va inviter des femmes à notre camp de développement.
Je dis pas que c'est ça.
Ben non, mais en même temps, ça aussi, tu sais, comment tu m'as appelé tantôt, l'actuaire, c'est un calcul assez facile à faire, là. On ne se fera pas de cachette non plus que, d'un point de vue visibilité, marketing, image de marque pour les Oilers, c'est peut-être un mini coup de circuit pour essayer d'effacer les bévues qui ont été faites dans les derniers mois, là.
Cela dit, ça reste une excellente nouvelle pour le hockey féminin, puis ça reste super cool. C'est pas quelque chose qu'on aurait vu il y a 5-10 ans. Fait que, peu importe les raisons, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que tu as vu passer la vidéo sur les réseaux sociaux, Max, de la cérémonie qui a eu lieu hier pour la remise des bagues du côté du Stade Canac? Parce qu'on a remis les bagues, c'était présenté par Graduard, les Capitales de Québec, qui ont eu l'honneur de recevoir le commissaire adjoint de la Ligue Frontière, Matt Shepardson. Et M. Shepardson pourrait considérer éventuellement, je pense, le poste
de PDG d'Air Canada.
Je sais pas, est-ce que tu as vu ça passer, Max?
Oui, puis j'ai trouvé ça cool parce que de mémoire, j'avais vu passer dans une entrevue d'il y a plusieurs mois de ça, ce gars-là, puis là, je vais vraiment de mémoire, mais qui disait comme qu'il aimerait ça un peu apprendre le français. Puis tu sais, c'est quelque chose que tu peux lancer un peu à la va-vite en revenant jamais là-dessus. Puis fait que quand j'ai vu ça passer tantôt, ces réseaux sociaux des capitales, j'ai eu beaucoup de respect pour ce gars-là, Mike Shepardson, que je connais pas vraiment, honnêtement, là. Mais de voir ce qu'il a fait, j'ai trouvé que ça avait tellement de classe.
Un bel effort, c'est ça. Il a tenu sa promesse, finalement, de cette proposition-là. On va se laisser avec un extrait de ça. Merci, Max, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ce qui a brassé du côté de la Ligue nationale aujourd'hui.
Salut.
Salut.
Attends.
As-tu ton son?
Ouais, attends.
J'ai été ici, à Québec, pour le salon des pétales. Et j'ai dit quelques mots en français pour les...
Oui, merci, merci.
J'ai dit quelques mots en français pour les féliciter pour la troisième championnat consécutive.
Très bel effort.
Le gars, puis c'est un texte du Soleil qui date du mois de mars dernier. Le gars s'est payé une semaine d'immersion à Québec.
Ah, carrément! Ah.
Oui, parce que c'était son 50e anniversaire qu'il a célébré en novembre dernier. Puis sa femme lui a demandé, qu'est-ce que tu veux faire pour tes 50 ans? Veux-tu aller à Vegas? Veux-tu aller à la plage? Il dit non, je veux aller suivre un cours de français. Et dans la semaine du milieu mars à peu près, lui, c'est un gars qui vit en banlieue de Chicago. Tu sais, c'est pas un gars, mettons... dans la banlieue d'Ottawa, qui s'est dit « il faudrait peut-être que je me force, on est dans un pays où il y a une autre langue qui se parle, je pourrais faire un effort. »
C'est un Américain.
Il a travaillé son français avec un tuteur québécois, Richard Dion, des séances quotidiennes qui commençaient à 9h30 le matin et se prolongeaient jusqu'à 15h30 en après-midi.
OK, il a travaillé, là.
Il a travaillé excessivement fort. Il dit « c'est très important pour la Ligue, mais important pour moi aussi de démontrer du respect envers les Québécois et leur culture. »
Tabarouette!
La meilleure façon de le démontrer, c'est d'étudier et d'apprendre leur langue. C'est un gars de la banlieue de Chicago.
On a des Canadiens anglais qui comprennent.
On a un PDG d'Air Canada qui reste à Montréal depuis je ne sais pas combien d'années.
Qui parle, c'est ça. Puis là, attends, de ce que je comprends, c'est que, étant donné que c'était sa décision pour son anniversaire, est-ce que tout ça a été payé par la Ligue ou est-ce qu'il y a une partie qui a été payée par...
Non, c'est lui qui s'est payé. Lui-même.
C'est quand même fou,
mais
ça
oui,
aussi.
C'est son
que ça
cadeau
soit même
pour ses
pas...
50 ans.
Hey, tu sais, écoute, c'est vraiment beau.
Il y a des gens qui vivent à Montréal depuis tout le temps.
Oui.
Qu'eux autres vivent leur vie en anglais, puis même s'ils connaissent un peu le français, ils ne se forceront même pas.
Ce gars-là n'a pas besoin d'apprendre le français. Zéro. Il dit juste une question de respect pour moi pour comprendre le Québec, leur culture. Merci. C'est tout ce qu'on demande.
Ben,
je trouve qu'on est tellement pas si exigeant.
Ben non, c'est vraiment pas si pire. Puis, tu sais, je trouve que c'est beau parce que en faisant ça, c'est de donner comme commissaire la crédibilité à la ville de Québec. Hey, attends un peu. Cette équipe-là, c'est la troisième fois qu'ils sont champions de la Ligue. Il y a quelque chose qui se passe à la planète baseball, puis ça se passe dans la ville de Québec. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une bonne pépinière. Ça veut dire qu'à quelque part, les joueurs de la Ligue ont envie d'aller jouer là parce qu'ils savent que c'est l'équipe de gagnants aussi. Ce qu'on ressent pas nécessairement, je prends un autre exemple, là. Je compare des pommes avec des oranges, là. Mais du côté de la Ligue nationale, avec M. Bettman, puis avec tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, puis c'est depuis que le Canadien existe qu'il y a cette bataille-là à convaincre, alors que quand tu te promènes aux alentours du Centre Bell, quand c'est soir de match pendant les séries éliminatoires, encore là, comme en fin de semaine au Festival de jazz avec Angine de Poitrine, autour du Centre Bell, c'est sold out aussi. Là.
Ouais.
Le Centre Bell est plein, mais c'est plein au grand complet. C'est un marché qui est excessivement payant.
Puis ça se force pas à parler
puis
français.
Puis ça se force pas à parler français deux secondes.
Le joueur dont le français n'est pas la langue maternelle qui a parlé le plus français dans les derniers mois, c'est Yacoub Dobesch. Lui, j'ai l'impression qu'il va l'apprendre pour vrai, tellement qu'il trippe sur Montréal. J'ai trouvé ça beau. Si vous voulez voir la vidéo, elle est sur les médias sociaux des Capitales de Québec et vous allez voir que le gars, il n'a pas une feuille dans ses mains. Là.
Non,
il n'est pas du phonétique.
Non. À un moment donné, tu vois qu'il cherche son mot, il revient. Hey, respect à ce gars-là. Une semaine d'immersion pour apprendre le français au mois de mars, c'est beau résultat.
Vraiment, chapeau. Vraiment beau, vraiment solide. C'est Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini, Nathan Meilleur, votre émission du retour à la maison. Ça s'appelle Le Retour de Boulevard 102.1, quand même assez facile à retenir. Vous voulez nous texter 971-102.1, vous voulez appeler 780-102.1. On fait une courte pause et on est de retour de l'autre côté. Le retour. 17h39, presque 40. Et là, loin de moi, l'idée d'être immature, puéril.
Ah, mais regarde, je vais te donner un angle.
Bébé Lala.
Bébé Lala.
Non, on va avoir une raison, tu vas voir.
Mais là, c'est une petite faute de français qui m'a bien fait rire aujourd'hui.
On vous a parlé juste avant la pause du commissaire de la Ligue Frontier qui a choisi de venir apprendre le français au mois de mars et qui a fait un discours aujourd'hui en remettant les bagues. Puis, il s'en est super bien sorti. Puis, tu as vu qu'il y a eu un certain souci de la langue. C'est un gars qui vit en banlieue de Chicago. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est un Américain, il serait pas obligé de le faire, mais au Canada, les gens font un effort. Puis c'est un texte qui a été d'abord sorti par Nouveau en fin de semaine, puis Radio-Canada est allé encore plus loin là-dedans, sur la ville d'Ottawa, qui, un peu comme à Québec, on a des belles petites places publiques qu'on a installées, c'est magnifique, avec du mobilier urbain, puis c'est donc bien le fun. Et on a voulu en faire la promotion en mettant des affiches du côté d'Ottawa, des belles affiches qui, ça donne, qui sont roses. Et on voulait écrire dessus « placette public », mais on a oublié une lettre. On n'a pas oublié le U, on n'a pas oublié le B, on n'a pas oublié le I, le Q, le E. On a oublié le L. Donc, on a imprimé en plusieurs copies placette public et on les a accrochées.
Oui.
Imaginez toutes les étapes que ça a franchies.
Oui. Sans que personne ne voit...
Ça arrive des fautes de frappe.
Public.
T'sais, nous autres, des fois, là, on se retrouve à faire un post sur les médias sociaux. C'est fait rapidement parce qu'on est une petite équipe. On va se rendre... En fait, Max Larouche va se rendre compte qu'il y a une faute. C'est comme... Sérieux, je pense que c'est son autre job à côté.
Ah oui, il y a comme un de lynx.
Ah, oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Fait que là, Max va nous dire ça très rapidement. On va le corriger. On va s'en sortir. Clairement, du côté d'Ottawa, il n'y avait pas de Max Larouche pour passer là-dessus. Fait qu'ils ont fait les affiches au graphisme. Ils ont regardé, enfin, ben beau ça!
Attends, là, il y a eu un brief. Ça a été envoyé à un graphiste. Oui. Ça a été envoyé en impression. Ça a été livré. Oui. Ça a été posé.
C'est une douzaine de panneaux qui ont été posés le long de la rue Bank, pardon.
Mais tout ça a été fait par des anglophones, c'est ça?
Placette
public. Visiblement, visiblement, il n'y a personne qui parlait français pour relire ça, ou les personnes qui parlaient français ne sont pas œil de lynx du tout.
Non, c'est ça.
Ils sont dyslexiques, bon, c'est possible. Est-ce que vous vous rappelez de l'imitation de Marc Labrèche?
Vidéo du public!
Du public!
Il est pas même enfant! C'est son imitation d'Anne-Marie Lozic.
D'Anne-Marie Lozic, exactement. Oui. Les vidéos du public.
Du public! C'était... Mais là, tu sais, faut que quelqu'un saute là-dessus, là. Dans le sang, on brainstorm, là.
Tu veux sauter sur une place publique?
Sur le public à qui?
Non, en fait, c'est que si t'es une compagnie... Je prends l'exemple de Viva, mettons, là. OK?
Ah ouais.
Faut absolument que t'ailles dans une de ces 12 places publiques-là puis que tu t'affiches toi aussi.
Avec le, tu sais... On épile vos placettes publiques.
Oui, c'est ça. Si vous aussi, vous voulez qu'on s'occupe de votre placette publique, venez chez Clinique Viva. Tu sais, tu comprends?
Dépistage de maladies
de ITS, c'est ça en plein ça aussi. Tu sais, là, faut que les agences autour, tu sais... Moi, ça arrive, ça, dans la ville de Québec. Je suis encore en agence. C'est sûr que j'essaie de brainstormer rapidement puis je pense aux clients avec qui je travaille. Puis je suis comme, OK, faut qu'on saute sur l'occasion de cette bévue-là puis tourner ça à la rigolade, tu sais.
Oui.
Parce qu'il y a quand même, de ce que je comprends, des fonds publics qui ont été dépensés. De façon...
Ils ont-tu décroché les pancartes?
C'est la...
Ils sont encore là, les pancartes?
J'imagine qu'ils ont été décrochés, là, parce qu'en anglais, c'était « Uncommon Spaces
».
Puis c'était une affiche de la zone d'amélioration commerciale, la ZAC Centertown, qui avait donc été installée. Mais j'imagine qu'il y en a qui les ont volés, là, parce que ça a été accroché avec des tie-wraps. Il y en a qui partent avec des pancartes de politiciens, là.
Ben c'est sûr.
Ben, c'est sûr.
C'est un souvenir, c'est un artefact, ça, là.
C'est sûr, c'est sûr.
Public.
Et ça représente et symbolise tellement bien notre beau bilinguisme de Google Translate.
Ah oui, hein. la place publique. Je pense que je l'ai trouvé.
Monsieur Anne-Marie, bienvenue aux vidéos du public.
Merci, Nathan.
Public. Alors, sachez que cet été, si vous allez à Ottawa, il y a des placettes publiques.
Hey, je m'ennuie de Bruno Blanchette quand tu faisais des affaires dans même. Oh, ça n'a pas de bon
sens.
Mais
oui, j'ai dit Marc Labrèche, c'est Bruno Blanchette.
Oui, mais c'est ça, c'est dans... C'est-tu N'ajustez pas votre sécheuse? La fin du monde est à 7 heures.
Mais ça, c'était dans N'ajustez pas votre sécheuse.
C'est ça. Bon, voyons, j'ai rien de correct à soir. Je serais vraiment nulle au pop-quiz.
Non, mais c'est que ça a commencé à La fin du monde est à 7 heures parce que des fois, il leur manquait du temps. Ouais. Puis ça, cette histoire-là, c'est ça, est connu maintenant. Mais ça arrivait des fois que Marc Labrèche, il appelait Bruno Blanchet pour lui dire « Il nous manque comme 5 minutes 30. » Fait que lui, il se déplaçait avec des costumes puis avec vraiment les moyens du bord pour faire une courte chronique innocente comme ça.
Le déguisement était vraiment à s'y méprendre.
C'est comme ça que plusieurs de ces personnages sont nés aussi.
Mais tu sais, Antonine, si la ZAC à Ottawa avait travaillé comme nous, jamais il n'y aurait eu de placette publique.
Non.
Parce que quelqu'un d'autre aurait rattrapé vraisemblablement
l'erreur.
On n'aurait pas eu de ça à parler. On fait quand même un petit tour de l'actualité aussi, si tu le veux bien, Véro, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont retenu l'attention aujourd'hui.
Oui, je vous rappelle, tu sais, d'ailleurs, là, les problèmes dans la circulation en général se sont franchement résorbés. Là, on est carrément ailleurs. Vous avez tout l'air d'être chez vous, puis tant mieux. Mais quand même, on a eu des accidents, entre autres, plus tôt aujourd'hui, dont un qui fait qu'actuellement, du côté d'un centre hospitalier, il y a un enfant qui se retrouve dans une position où on craint pour sa vie. C'est un accident qui a eu lieu dans le secteur de Beauport. Mmh. Vers 15h11, des appels au 911 qui rentrent. Le jeune cycliste et un véhicule, donc accident qui s'est produit à l'intersection de l'avenue de la Sablonnière et du boulevard Raymond. D'ailleurs, au moment où on se parle, il semble toujours y avoir un problème de circulation dans ce secteur-là, là, l'avenue des Sablonnières qui est fermée entre la rue Louis-Philippe-Roy et le boulevard Raymond. Il y a une femme de 76 ans qui a été arrêtée pour accident et délit de fuite. Il y a un périmètre qui a été érigé dans le secteur parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui s'est bien passé. Ensuite de ça, là, ça commence à circuler chez tous les médias. Là, c'est jeudi que la première ministre Christine Fréchette annoncerait qu'elle sera candidate à Trois-Rivières pour la prochaine élection générale en 2022. Elle avait été élue députée dans le secteur de Saguenay, qui est en Montérégie. Et là, Trois-Rivières, laissé vacant par Jean Boulay. J'ai bien aimé l'analyse d'Antonine qui disait « Si elle perd, au moins elle ne sera pas chef d'une opposition ». Puis Trois-Rivières, actuellement, c'est une circonscription, c'est le PQ qui est légèrement en avance. Mais encore là, vous comprendrez qu'on est dans la marge d'erreur. Toutes les parties sont sur la même marge du podium au moment où on se parle. Là, tout est possible d'ici les élections du mois d'octobre.
Ça confirme que ce qu'elle veut, c'est être première ministre et non pas être chef de la CAQ.
Ou chef d'une grosse opposition, mais pas genre c'est la catastrophe. Moi, c'est ça que je comprends.
OK. Fait qu'elle pourrait rester en place. Ouais, c'est ça.
Mais de toute façon, la CAQ, là, soit que ça part en vague ou soit que c'est dans deuxième opposition minimum parce qu'il n'y a pas de base. Ouais. C'est pas comme les libéraux puis le PQ.
Ensuite de ça, il y a Radio-Canada puis Bell qui ont écarté un débat des chefs à Québec. C'est une demande qui avait été faite d'abord par Éric Duhaime, mais à laquelle ont acquiescé les chefs de tous les autres partis. En gros, ce qu'on dit, entre autres, du côté de Radio-Canada, là, c'est que c'est des coûts qui sont importants, une logistique qui nécessite beaucoup d'organisation, donc on n'organisera pas de débat supplémentaire. VTVA qui n'avait toujours pas répondu à cette demande-là. C'est Le Soleil qui a publié un texte. Et en terminant, vous avez besoin de mettre de l'essence. Magasinez votre essencerie. Actuellement, à Québec, il y a un écart d'à peu près 40 sous qui existe. Des secteurs où on est encore dans du 1,84 et d'autres secteurs qu'on a descendu aussi bas du près de quoi? Une 40-quelques?
À peu près, oui, c'est ça. C'est 40 sous différents. Ça veut quand même dire, c'est ça. Oh, c'est le début des vacances, là. Il y a quelqu'un quelque part qui est parti en vacances puis les messages se passent pas à la même vitesse que d'habitude d'une station-service à l'autre.
Oui, mais tu sais, là, il y avait eu des accalmies du côté du conflit au Moyen-Orient puis le prix du baril avait descendu. Il fallait qu'on vive ça à un certain moment donné. Souvenez-vous, le fédéral qui a suspendu la taxe d'accise pour une période allant jusqu'au mois de septembre. On n'a pas eu l'opportunité de le voir parce que le prix du baril a justement explosé. Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve quelque part dans... La réalité doit être là-dedans à peu près. Québec, on connaît pas les guerres de prix. Contrairement, mettons, à Saguenay, où il y a tellement de bannières d'essencerie, où ça a été hyper agressif au courant des dernières années. Pour une rare fois, la région de Québec peut bénéficier de cette guerre de prix-là. Fait que prenez le temps de magasiner si faites pas 60 km pour traiter,
non, non.
Là.
Mais profitez-en, profitez-en aujourd'hui quand même, parce que tu sais, on n'a jamais connu vraiment cette guerre des prix-là, puis j'ai pas l'impression que ça va être très très long dans l'espace-temps non plus. Là,
ça se peut que demain on fasse comme « Hey, c'est fini ».
C'est ça, vous avez pas une semaine là pour... vous avez le choix de regarder le film ou d'en faire partie. Si vous voulez être acteur, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est un trio. Donc, Véronique Bergeron, Anthony Niaccarini, moi-même, Nathan Meilleur. Cette émission-là s'appelle Le Retour de Boulevard. C'est la formule estivale pour vous raccompagner à la maison parce qu'on a pris la décision à Boulevard de rester 100% parlé pendant la période estivale au complet. Et on est avec vous jusqu'à 18h. Le Retour. Relaxant, cette petite trame. Pour terminer l'émission, déjà édition de ce lundi 29 juin, Le Retour de Boulevard 102.1. J'ai passé une bonne partie de la fin de semaine à l'extérieur de mon côté. On est en train de faire des petits travaux à la maison. Puis j'écoutais le Chum Colosse en fin de semaine. Hey. Il est vraiment solide.
C'était sa fin de semaine colossale.
C'était sa fin de semaine colossale, oui, c'est ça, parce qu'il était là en remplacement de Dan à partir de vendredi dans le garage à Dan. Mais toujours hyper intéressant. Un gars qui en connaît énormément sur la musique. Puis un gars qui est intéressant à entendre expliquer la musique aussi, les différents faits qu'il connaît. Puis j'apprends beaucoup d'affaires avec Colosse, des anecdotes. Bref, un paquet de choses que je ne connais pas. Fait que c'est le fun d'avoir ce gars-là au sein de l'équipe de Boulevard. Ouais. Et là, il va être là aussi pour la journée de mercredi. Question de souligner le Canada à la façon Boulevard 102.
Exactement, parce qu'on vous propose le 1er juillet une émission spéciale toute la journée à partir de 10h. Colosse qui vous présente le meilleur rock canadien de 1990 à aujourd'hui. Chaque début d'heure, on vous joue un doublé de tunes rock canadiennes, de Holiday Peace à Nickelback en passant par Sum 41, sans oublier des groupes légendaires comme Rush. On s'en permet. D'ailleurs, cette fin de semaine-là, qui est une présentation de Unicanva, donner du style à votre terrasse, Unicanva qui crée votre espace de vie extérieur sur mesure, des toits permanents ou rétractables, des murs, des verrières. Vous allez pouvoir vivre l'été confortablement et en toute liberté. Unicanva.com.
Fait que manquez pas ça, ça risque d'être un très, très gros show. Et la fin de semaine aussi, suivez-le, l'ami Colosse, toujours très, très efficace. Puis j'aime bien ça quand on passe à 15h puis qu'on met ça à broil un peu. Je vous le dis, là, si vous faites de l'activité physique à l'extérieur, vous avez une longue run à
avec
faire.
Colosse du rock?
Prenez votre moment à partir de 15h. Samedi, dimanche, ça vaut vraiment, vraiment la peine. On va parler cinéma aussi un peu parce que on s'en attendait quand même parce que déjà, les critiques n'étaient pas extraordinaires. Mais Supergirl, c'est pas le top du top. Là.
Non, puis tu sais, on savait que ce film-là ne serait pas numéro un du box-office. C'est Toy Story 5 qui est là, qui en était à sa deuxième fin de semaine, qui réussit à faire un 70 millions de dollars. Mais Supergirl retenait l'attention parce que les premières critiques étaient moyennes. C'est un film qui a coûté quand même assez cher. Le budget estimé est autour de 170 millions de dollars. L'année passée, le film de Superman avait fait correct. Mmh. Puis au fil du temps, il avait même fini par faire des sous. Mais là, dans le cas de Supergirl, un 38 millions de dollars en fin de semaine, en plus des critiques qui sont très moyennes, c'est pas une bonne nouvelle. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'un peu ingrat. Supergirl a été porté au cinéma une fois il y a très, très, très longtemps. C'était dans les années 80 de mémoire. Puis, tu sais, c'était à l'époque des films de Superman de Christopher Reeves. Là.
OK.
Fait que, tu sais, c'était pas vargeux en frais de technologie. Puis, ben Superman était tellement fort. Là, je trouve qu'on avait les bons moyens, qu'on avait une bonne histoire avec cette version-là de Kara Zor-El qui est un petit peu plus badass, qui est un petit peu plus trash. Tu sais, c'est pas la petite fille sage qui veut sauver le monde. Là, on avait une fille qui était pas mal plus en mode vengeance. Puis, c'est bien en delà des projections parce qu'à la base, on espérait pour le week-end faire pas loin de 60 millions de dollars. Okay. À 38 millions, c'est une grosse déception. On puis là, les films, là, ils vont continuer à sortir au courant de la prochaine semaine. Il va y avoir de gros films qui vont être là. Fait que la rivalité va être beaucoup trop forte. Je vous glisse au passage. Là, Jackass est rentré en quatrième position.
OK.
Le film Obsession.
Ouais.
J'ai écœuré les auditeurs avec ça pendant des semaines et des semaines. Ça fait 7 semaines, presque 8, que le film est à l'affiche. Il a coûté des pinottes à faire. Son réalisateur a genre 24 ans de mémoire. C'est un film d'horreur dans lequel un gars souhaite que sa meilleure amie tombe en amour avec et ça tourne à l'horreur. Le film est encore numéro 3 au box-office.
Si.
Il fait, je pense, 2 millions par jour depuis une quarantaine de jours. Ça a aucun sens. Fait que toujours disponible au cinéma si des fois ça vous tente.
Ça, il faut que j'aille le voir, Obsession, avant qu'il sorte du cinéma. Idéalement, sans mes enfants.
Oui, non.
C'est ce que j'ai compris.
Oui, non.
De la consigne. Puis la question qui tue aussi, qu'est-ce que DC a pas compris dans la recette que Marvel a compris?
Ouais.
Parce que c'est tout le temps ça, j'ai l'impression, avec DC. On revient tout le temps avec cette cassette-là. C'est ce qui met déjà fin à l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, merci beaucoup.
C'est le fun.
C'est vraiment le fun.
Demain, même heure, même poste, donc 14h. Puis évidemment, on vous accompagne avec cette formule talk-là pendant toute la saison estivale. On vous souhaite une excellente soirée. C'est l'ami Yannick Marceau qui s'en vient à l'instant même.
L'application Boulevard 102.1.